Radio Kapi. Conflit Teke Yaka, la réalité est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Plusieurs groupes ethniques de la RDC sont impliqués dans ces conflits, même si les Yaka sont majoritaires dans cette contrée. Et si on ne traite pas bien ce conflit de Kwamut, il finira par atteindre la ville de Kinshasa. C'est le contenu du rapport du cardinal Fridolin Bongo, rapport remis au Premier ministre. Il a révélé hier au cours d'une conférence de presse. Et puis la loi de reddition des comptes déclarée recevable hier à l'Assemblée nationale, après la réplique du vice-ministre des Finances. Vous suivrez les explications de Mme Oneige Nselé-Mipa dans cette édition du journal sur la question des routes non réhabilitées alors que l'argent a été décaissé. Enfin, la Belgique doit jouer un rôle diplomatique actif pour stimuler l'attractivité de la RDC. C'est ce que pense Rudy Demont, le président du Parlement de la communauté française en Belgique. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Conflit Teke et Yaka, enfin le contenu du rapport du cardinal Fridolin Bongo, l'archevêque de Kinshasa, est connu. Dans une conférence de presse tenue hier vendredi ici à Kinshasa, à l'issue de sa visite pastorale dans le Grand Bandundu, le prélat catholique a recommandé au gouvernement congolais notamment le renforcement de la présence et de l'autorité de l'État dans les territoires de Kwamut et l'examen de la question territoriale pour réduire les distances entre les autorités et les administrés, sans oublier l'appui matériel et financier conséquent à l'armée et à la police nationale congolaise déployée dans cette région. Le cardinal Fridolin Bongo a également plaidé pour la mise sur pied d'une structure chargée de mener à bien le processus de dialogue et de réconciliation entre toutes les parties en conflit. Grâce à Mzati.
Dans cette rencontre avec les journalistes, tout a commencé par la projection d'une vidéo qui retrace tout le parcours du cardinal Fridolin Ambongo dans les Grands Bandundu, précisément à Kwamut, où des témoignages poignants, notamment des populations victimes, ont été recueillis. Tout en demandant une réponse humanitaire urgente, le prélat catholique peint un tableau sombre de la situation.
Aujourd'hui, on compte plus ou moins 170 morts. Mais la population de personnes déplacées est énorme. Un grand groupe est à Bandundu, ce que j'ai rencontré. Il y en a qui sont un peu éparpillés partout.
Il y révèle des observations suivantes.
Nous sommes ici en face d'un conflit intercommunautaire. Et pas comme cela est décrit de manière simpliste comme un conflit Teke-Yaka. C'est une grosse aberration avec des conséquences que nous ne mesurons pas. La réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits, même si les Yaka sont majoritaires dans cette contrée. Et si on ne traite pas bien, ce conflit finira par atteindre Kinshasa. Parce que Kwamut, c'est à la porte de Kinshasa. Enfin, c'est le rapprochement à faire entre les événements qui se passe actuellement à Kwamut et les massacres qui ont eu lieu en 2018 à Yumbi. Ces deux événements se passent toujours à l'approche des élections. Et les deux se passent dans la même province de Maïndombe. Ça donne à réfléchir.
Il a également demandé que les personnes citées qui sont à la base de ces conflits soient poursuivies valablement par la justice.
Et puis au Nord Kivu, une certaine accalmie s'observe ces derniers temps sur l'axe Kachebere-Kibou-Ampofi dans les territoires de Walikale. Pour autant, la situation humanitaire et socio-économique reste préoccupante. C'est le constat fait par le responsable de l'ONG Ardacom qui revient d'une mission d'évaluation dans cette région. Il recommande aux autorités provinciales de faire le suivi rigoureux des travaux de réhabilitation menés par des sociétés attributaires sur ces taxes afin de permettre à la population de s'approvisionner et d'écouler ses produits champêtres. Le point dans ce reportage de Sifa Maguru.
D'après Émile Mouombo, coordonnateur de l'association de réhabilitation pour le développement des activités environnementales et communautaires Ardacom, la population salue et encourage l'accalmie qui s'observe sur les plans sécuritaires dans cette région. Cependant, la population en majorité des retournés fait face à plusieurs problèmes liés à la santé, à la sécurité alimentaire et des échanges commerciaux à cause de l'enclavement. Émile Mouombo décrit la situation.
Il y a beaucoup de bourbiers, donc impraticabilité totale. Vraiment, ça impacte négativement puisque le transport des malades cause problème. L'approvisionnement des deux zones de santé, donc c'est-à-dire de Kibua et la zone de santé de Walikale, cause problème. Et le transport des femmes enceintes. En tout cas, c'est ce que nous avons observé sur le terrain. Depuis Kachebere, Kibua, Ruvungi, Binyampuri, Mpofi jusqu'à Walikale, en tout cas, sur le plan sécuritaire, est relativement calme. La zone est généralement contrôlée par notre armée.
Cet activiste insiste sur l'ouverture de cet axe routier Kibua-Mpofi-Ruvungi jusqu'à Mutakato, actuellement bloqué par des grands bourbiers qui empêchent même le passage des motos. Des travaux de réhabilitation routière sont en cours, mais avancent avec lenteur. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, au moins 4 villages sont vidés de leur population depuis jeudi dernier dans le groupement de Nyamaboko 2. C'est dans le sud du territoire de Masisi. Selon la société civile locale, les populations de Mbeche-Mbeche, Biolo, Nairobi et Mangere ont quitté à la suite des menaces des groupes armés qui s'affrontent régulièrement dans la zone. Selon cette source, un groupe Nyatura d'un certain Kapasi, avec ses alliés et celui des Kifuafua de Delphin Mbaenda, ont déjà installé leur base dans ce village et du coup, ils s'affrontent pour le contrôle d'autres villages. Ces acteurs plaident pour le déploiement des FRDC dans la zone. Et puis, la jeunesse de Butembo doit éviter de se faire justice car les innocents ne sont pas épargnés. C'est un appel des services de sécurité aux jeunes de Butembo qui voulaient en finir hier matin avec un jeune qu'ils soupçonnaient d'être un ennemi. La victime, un jeune avec des troubles mentaux, a été sauvé grâce à l'intervention de l'armée et de la police. Le porte-parole des opérations Sukula 1 dans la région, qui salue la vigilance des jeunes, mais les appelle à éviter de se faire justice. Le capitaine Anthony Mualushai est au micro de Marc Marofimbo.
Nous appelons les jeunes d'être sages. La meilleure des solutions, c'est travailler derrière son armée. Nous saluons le geste d'identifier un étranger et de le remettre entre les mains des services de sécurité. Mais commencer à se rendre justice, ça n'aide pas l'armée, ça n'aide pas à la population à retrouver la sécurité. Parce que les suspects qu'on a appréhendés peuvent nous révéler encore des renseignements qui peuvent, n'est-ce pas, aider l'armée et les services de sécurité à mettre la main sur d'autres assaillants si réellement ils existent dans la ville. La ville de Butembo est menacée. Tout le monde est conscient. Et si nous continuons à toujours manifester, créer des troubles en pleine ville, nous donnons toujours l'occasion à l'ennemi de nous infiltrer facilement et de nous faire très mal. Donc, nous appelons la population à être mature. Nous appelons la jeunesse à ne pas utiliser les sentiments, mais utiliser la sagesse.
Signalons que la victime a été gardée à la police en attendant son retour à Bunia. Sa vue de provenance nous renseigne les sources de la police à Butembo. Autre nouvelle, l'Assemblée nationale a déclaré au cours de la plénière de ce vendredi recevable le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2021. Dans sa réplique aux différentes préoccupations des députés sur notamment des cas de dépassements budgétaires et des détournements de fonds publics dans l'exécution du budget 2021, la vice-ministre des Finances a rencontré toutes ces préoccupations des députés en 9 groupes de réponses. Pour Onège Ntsele Mipa, les dépassements budgétaires sont justifiés par la modicité du budget et les caractères des dépenses exigées par certains ministères comme la Défense et l'Intérieur. Pour la question des routes non réhabilitées alors que l'argent a été décaissé, la vice-ministre des Finances s'explique. Onège Nselemipa est au micro de Michel Kifindangoy.
Quant aux préoccupations en rapport avec le dépassement des crédits alloués aux investissements et la non réalisation des ouvrages, il s'y est de faire ici un distinguo entre l'exécution financière et l'exécution physique d'un projet qui, dans la plupart des cas, est pluriannuel. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever. Pour la route Kindele, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais ainsi évoqués ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avaient été décaissés en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. La ligne abusivement considérée comme une subvention à l'Union des consommateurs concerne plutôt 1. L'acquisition du quota de pêche auprès du gouvernement namibien, l'acquisition de plusieurs tonnes des poissons chinchard auprès des entreprises Inalka et Tunacor, soit un total de francs congolais 18,5 milliards.
Infiniment territoire, telle est la thématique de la 8e édition du réseau d'affaires Makutano. initiée en deux temps, le 24 octobre à Kinshasa et le 25 octobre à Mbujimayi. L'objectif est de promouvoir plusieurs secteurs d'activité de ces deux provinces, notamment l'agriculture et l'agro-business, une façon de lutter contre le chômage et l'insuffisance alimentaire. On écoute Nicole Soulou, fondatrice du réseau Makutano, au micro d'Inkeli Yoka.
L'infiniment territoire, basé sur les territoires, avec un retour dans ce Congo profond, avec un retour de la base, avec une promotion de l'agriculture, de l'agro-business, des chaînes de valeur, avec cette question sur l'autosuffisance alimentaire qui reste une question très importante à régler sur le continent, avec ce qui se passe en Europe, avec des priorités d'énergie, avec des questions qui reviennent sur la question des champions nationaux. Mais en tout cas, si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment ce retour dans nos provinces et pour que ce développement commence par là. Alors, c'est une rencontre, c'est des discussions qui vont se faire entre effectivement le secteur privé ici et les locaux et les décideurs publics qui vont nous accompagner. Donc, c'est vraiment un format Kinshasa qui va se passer à Mbujimayi. Le premier objectif, c'est de faire des affaires, de faire du business. Mais Mbujimayi, c'est ça. S'il y a du business, il y aura certainement moins de chômage, ça c'est clair.
Et puis, lutte contre la pollution par des bouteilles en plastique à Kinshasa. Arsène Bakandoa, étudiant en sciences de l'environnement à l'université de Kinshasa, a lancé le projet dénommé Reciplast Eco. Il s'agit d'un projet de recyclage de ces bouteilles en les transformant en ustensiles de ménage, à l'instar des brosses à balai et autres petites brosses pour diverses tâches. Une démarche pas facile selon son initiateur qui sollicite l'accompagnement des autorités. Kelly Yoka est allé à sa rencontre.
Le souci d'Arsène Bakandoa et ses quatre collègues est de lutter contre la pollution de l'environnement en débarrassant tant soit peu la ville de Kinshasa de ces bouteilles qui bouchent les caniveaux et les rivières. Au-delà de la lutte pour la protection de l'environnement, cette activité s'inscrit également dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes.
La question du plastique, c'est la question qui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup tapé dans la tête. Donc, il me fallait aussi trouver une solution. J'ai commencé par recycler d'abord le plastique pour en faire le pavé. Et après, un jour, sur Facebook, j'ai découvert une photo où on fabriquait les balais à partir de bouteilles plastiques. Alors, j'ai commencé à faire les essais. Jusqu'à aujourd'hui, j'en produis déjà des balais.
Pour faire plus, son initiative a vraiment besoin de l'accompagnement des autorités.
La première difficulté, d'abord, c'est l'espace de travail. Je n'ai pas un grand espace pour travailler, et moi et mon équipe. Et autre chose, nous manquons certains matériels pour le travail. Et à part ça, d'autres difficultés, c'est genre quand tu dois aller au cours et puis tu dois être là pour travailler un peu, ces petites complications, mais on arrive quand même à s'y faire.
Notons que Kinbopeto Lingwala et plusieurs ONG qui luttent contre l'insalubrité à Kinshasa s'approvisionnent en brosse auprès d'Arsène Bakandoa.
Et puis au site du cimetière de Nkintsuka dans la commune de Mongafula, plusieurs habitations sont construites en détruisant des tombes. Comment vivent les occupants de ce site alors que plane sur eux la menace d'une démolition annoncée pour cette semaine par le gouverneur de la ville lors de sa descente sur place mercredi dernier? Priscille Kabuya s'est rendue sur place. Voici son reportage.
C'est l'inquiétude et l'incertitude qui se lisent sur le visage des adultes rencontrés sur place. Aucun n'a souhaité s'exprimer à notre micro. Tous croisent les doigts pour que la promesse de la démolition du numéro 1 de la ville ne se concrétise pas. Après tout, ce n'est pas la première menace ou démolition en ce lieu. Les bailleurs ne savent à quel sein se vouer, d'autant plus que le gouverneur a annoncé que, comme profanateur de tombes et spoliateur de l'espace public, aucun dédommagement ne leur sera accordé. Les locataires se tournent vers les bailleurs, mais sans grand espoir de récupérer les frais de garantie locative pour certains. La plupart des habitants disent n'avoir rien préparé dans le sens du départ. Ils se lamentent n'ayant selon eux où aller. D'autres affirment avoir du mal à quitter cet endroit où ils ont accumulé tellement de souvenirs. J'y suis venu. Je me suis mariée, j'y vis avec mes enfants, nous a confié Jean, un habitant. Quelques-uns ont entamé des démarches pour trouver un nouveau logement. Certains ont demandé à être logés chez des proches en attendant de réunir la garantie locative.
Actualité internationale.
En international, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de nommer un premier ministre. Ce maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, avocat au barreau du Burkina. Il est le président du Centre de recherche internationale et stratégique, un centre orienté vers les relations internationales et la géostratégie. Le capitaine Ibrahim Traoré commence à mettre en place son équipe. Le capitaine Oumarou Yabré est le nouveau patron des renseignements burkinabé. Il succède au lieutenant-colonel Mamadi Boukungu. Quant au capitaine Souleymane Zango, il prend le commandement du groupement de sécurité et de protection républicaine chargé de la sécurité du président du Faso. Et puis, Royaume-Uni, Rishi Sunak passe la barre de 100 parrainages pour sa candidature. L'ancien ministre des Finances britannique a dépassé le seuil de 100 parrainages requis pour pouvoir concourir à la tête du Parti conservateur après la démission de la première ministre Liz Truss, a annoncé vendredi un responsable du parti.
L'invité.
La Belgique doit jouer un rôle diplomatique actif pour stimuler l'attractivité de la RDC. C'est ce que pense Rudy Demont, le président du Parlement de la communauté française en Belgique. Il s'est exprimé à l'occasion du deuxième jour du Rebranding Africa Forum qui se tient à Bruxelles dans l'hémicycle de ce Parlement. Ce forum économique a pour objectif de proposer une nouvelle approche et de considérer les relations économiques entre l'Afrique et la République démocratique du Congo. Rudy Demont revient sur les défis, mais surtout les opportunités que présente la RDC et qui peuvent intéresser la Belgique. Il est donc notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Monsieur Demont, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, parlons de la relation entre la Belgique et la RDC. Quelle est votre lecture par rapport au fait de la RDC de pouvoir être attractive?
La RDC est un microcosme du macrocosme africain parce que c'est un immense pays hétérogène par ses cultures qui présente beaucoup d'aspects différents, comme d'ailleurs le continent africain. Donc, faire le rebranding, ça passe par deux choses. La mise en avant de cette richesse qui est une chose à découvrir, mais aussi par le fait que vous avez aujourd'hui, dans la RDC comme partout ailleurs, une capacité et une résilience qui nous intéressent beaucoup en termes d'apprentissage. On est exposé aujourd'hui à des défis énergétiques, climatiques, et je pense que un certain nombre de solutions, de sagesse traditionnelle africaine et singulièrement de la RDC, peuvent nous inspirer dans les modes de décision à prendre partout dans le monde.
Vous aviez dit dans votre discours que, en tout cas, le continent africain est assez attractif, mais qu'il y avait quand même de menaces qui pesaient. Comment faire pour y remédier?
Voilà, ça c'est un aspect évidemment beaucoup plus dangereux ou effectivement menaçant, c'est l'instabilité. Il faut être attentif à ce qui est en train de se passer, singulièrement dans la ceinture subsaharienne de l'Afrique aujourd'hui et dans les zones de conflit, ce qui est le cas malheureusement dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc avoir une capacité non seulement à regarder ce qui se passe là-bas, mais à agir sur les causes racines de ces maux, de ces instabilités causées par le climat de tension, de guerre, d'opposition, des personnes, des institutions, est quelque chose d'essentiel pour pouvoir travailler sur le rebranding de l'Afrique.
Et alors, comment la Belgique peut accompagner la RDC dans ce processus de rebranding?
Alors, certainement pas avec une position moralisatrice. Je pense que ça, c'est vraiment le piège à éviter. Donc il faut que la Belgique et par-devers elle l'Union européenne et nos moyens soient orientés vers deux choses. D'abord, c'est la détection des raisons pour lesquelles aujourd'hui un certain nombre de zones d'instabilité se maintiennent dans cet état. Et donc voir comment nous pouvons jouer un rôle de diplomatie active pour remettre les cartes en ordre en sorte que demain, le climat d'investissement à long terme, qui est quand même un élément d'attractivité essentiel. Et puis le deuxième élément, c'est bien cibler la manière de mettre en œuvre les investissements. Donc là-dessus, les relations bilatérales et multilatérales, Afrique, Europe et bilatérales, Belgique, RDC, doivent regarder comment, dans nos programmes, on peut être les plus efficaces possibles. Quel type d'entreprise doit-on soutenir ou dans quelles conditions?
Vous parlez des sous. Que faire pour attirer les capitaux belges face à une percée chinoise sur le continent et principalement aussi en RDC?
Alors, ce qui est intéressant, ça a été rappelé d'ailleurs par la ministre des Affaires étrangères il y a quelques instants, c'est que, à ce stade encore, l'Union européenne investit 5 fois plus sur tout le continent européen que la Chine. Alors, la question, c'est de rendre visibles les investissements. Parce que, pour connaître un peu le continent africain aussi et la RDC, on voit comment travaillent un certain nombre de puissances. Aujourd'hui, la Chine travaille sur la mise en œuvre d'infrastructures visibles, souvent dans des contrats d'échange matières premières contre infrastructures. ça a une coloration qui est effectivement toujours très lisible aux yeux de la population. On voit tout de suite ce qui se passe. Nous avons des programmes qui sont plus diffus. Quand on aide les femmes entrepreneuses, je pense notamment dans, pour donner un exemple précis, dans la périphérie de Kinshasa, ce qu'on appelle les mamans canards qui font de l'élevage de volailles. Quand on aide à la politique de substitution au charbon de bois par des productions alternatives, tout ça ne se sait pas de la même manière. On n'a pas une visibilité aussi grande que quand on construit une route, un hôpital, un parlement. C'est important, mais ça se voit moins. Donc, je crois qu'on doit travailler davantage sur la visibilité.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Alain Goy. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Emmanuel Elamegi et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.